Seigneur Jésus, bon Père, pour nous, la Bible, c'est une lettre que tu nous as écrite, Seigneur. Nous comprenons que tu as inspiré ces pages pour nous révéler celui qui est tellement différent de nous, tellement grand, tellement parfait, toujours serein, toujours confiant, sachant ce qui était, ce qui est et ce qui vient, Seigneur. Et tu es venu au milieu de nous. Toi, Jésus-Christ, le Logos, la parole de Dieu. Et nous voulons, Seigneur, demeurer en toi. Demeurer dans ta parole. Garder tes commandements dans notre cœur, dans notre vie. Pour nous, Seigneur, ces cours que nous prenons, ce ne sont pas d'autres cours comme on pourrait apprendre un métier, une profession. Ils ne servent pas essentiellement à nous donner, Seigneur, un bon langage, de bien paraître dans des conversations. Ils ne sont pas là pour rassurer faussement notre cœur sur la base de nos connaissances. Pour nous, Seigneur, ces cours sont là pour te connaître, te plaire, t'adorer. Et ce matin, en étant ici, nous sommes en train de t'offrir un culte raisonnable, parce que tu es Dieu. Père, j'aimerais te demander de disposer le cœur de cette assemblée, de disposer mon cœur à voir ces rassemblements d'Église autour de ta parole comme un moment privilégié dans la semaine, comme un moment d'adoration, comme un ressourcement profond, comme une communion avec toi et une communion en Église où nous nous rappelons la vérité de ta parole. Seigneur, nous sommes ici pour t'adorer. Et si quoi que ce soit dans notre cœur te déplaît, Seigneur, pourrait attrister actuellement l'Esprit Saint dans nos vies, pardonne-nous, Seigneur, parce que nous voulons être entièrement disponibles pour que ta parole vienne transformer notre vision de toi, du monde et de nous-mêmes, que ta parole vienne transformer nos cœurs, notre manière d'être, Seigneur, notre manière d'agir, nos sentiments les plus profonds. Et Seigneur, si quelques-uns parmi nous ne te connaissent pas personnellement, qu'ils ne repartent pas de cette assemblée en disant une belle religion, mais au contraire, qu'ils viennent rencontrer le Dieu vivant et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. Vous viendrez me voir après, Madame Paradis. Oui, on est content pour Brigitte. Merci, Madame Paradis. Merci. Je veux encourager l'Assemblée. Je l'ai mentionné dans la prière tout à l'heure. On commence à 9h. D'accord? Vous n'êtes pas en retard à un cours de cégep, 5 minutes en retard. Vous êtes en retard à un moment d'adoration avec l'Église. D'accord? Alors, je veux vous demander qu'on puisse faire un effort, qu'on puisse voir ça comme un rassemblement. On est là pour adorer Dieu, pour le louer, pour le célébrer. Et c'est un privilège extraordinaire. Des milliards de personnes sur la Terre actuellement ne font pas ce qu'on est en train de faire. Des millions de personnes au Québec sont restées couchées ce matin parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils pourraient faire, venir adorer Dieu en penchant les regards sur la parole. Alors, je vais vous encourager à vous engager dans ces cours-là avec sérieux. On est là pour connaître, pour rencontrer Dieu, pour grandir dans la connaissance de Dieu. Choisissez les cours. Je vais résumer encore brièvement. Si votre choix n'est pas arrêté, faites ça avec prière. Si à la fin de la rencontre de ce matin, vous dites « Je ne suis pas sûr que c'est ça que je dois prendre actuellement comme cours », c'est correct. Vous déciderez pour la semaine prochaine. S'il y a des gens qui devraient être ici, je pense qu'il y en a quelques-uns qui devraient être ici qui ne sont pas là, vous pouvez les encourager à venir ici. Vous allez servir leur âme en faisant ça. D'accord? Alors, on fait juste vous présenter les cours rapidement. On a un premier cours avec Herman Chatté. Je vais faire le résumé puisqu'il est déjà écart. D'accord? Alors, on a un cours avec M. Herman Chatté qui est la foi chrétienne expliquée. Ce cours-là vise les personnes qui n'ont pas nécessairement encore saisi l'Évangile. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que c'est des gens qui commencent une démarche vers l'Évangile, qui veulent explorer la Bible, tout ça. Peut-être qu'ils ont déjà saisi l'Évangile, mais ce n'est pas clair. Ce n'est pas tout à fait clair. C'est un bon cours à prendre avec Herman. Je pense qu'il va se donner aussi le jeudi soir. Est-ce que ça tient le jeudi soir? Ça commence cette semaine? La semaine dernière? OK. À quelle heure? OK. Alors, si on vous mentionne ça, à 7 heures le jeudi soir, parce que vous pouvez inviter des amis. S'il y a des gens qui vous disent « j'aimerais ça mieux comprendre », ben ça peut être une bonne place où les amener, d'accord? Puis c'est très, très convivial, ça se fait au Café Crème, c'est pas intimidant. Et donc ça, c'est avec notre frère Herman Chatté. C'est un cours qui dure 6-8 semaines, quelque chose comme ça, la foi chrétienne expliquée. Évidemment, avec Robert Saint-Pierre, si tu veux juste te lever un instant, Robert. Robert, un des anciens ici, un des pasteurs. Robert donne le cours de préparation au baptême. Alors, on a eu la joie d'avoir plusieurs baptêmes la dernière session. On va en avoir dimanche prochain aussi, 2 autres baptêmes, je crois. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont déjà en train de se préparer pour le baptême. Alors, vous avez juste à aller voir Robert. Si, encore une fois, Robert, à travers le processus, voyait qu'il y a des ambiguïtés sur votre compréhension du salut, soyez pas offensés. On a encore le salut de vos âmes plus que des témoignages publics. Et donc, ça peut arriver que Robert vous demande de patienter un peu ou d'aller faire le cours « La foi chrétienne expliquée ». On veut juste s'assurer que vous saisissez bien l'Évangile et que vous êtes vraiment prêt à passer par les eaux du baptême. D'accord? Le cours après que je devrais annoncer, ce serait le cours d'évangélisation, « Partager sa foi », qui va être donné par Alexandre Marquis. En réalité, on sent du matériel d'évangélisation explosive. Évangélisation explosive, un ami me demandait cette semaine « Qu'est-ce que ça veut dire « explosive »?» Ce n'est pas une méthode terroriste, d'accord? Ce n'est pas ça l'idée. C'est simplement que dans la formation, on fait de la formation théorique et pratique. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un cours qui se donne ici le dimanche matin pendant une heure où on apprend tranquillement à présenter l'Évangile, à poser des questions aux gens. Et le but de cet exercice-là est d'être équipé lorsque vous parlez avec un ami, puis vous dites, vous voyez comme une porte, puis là, vous voudriez parler de la foi, puis vous terminez la rencontre, puis vous dites, oh, il me semble que je ne l'ai pas aidé. Je ne sais pas ce qu'il comprend, je ne sais pas ce qu'il ne comprend pas, puis je ne savais pas où je devais m'en aller. C'est à ça que ça sert. Ça nous aide à comprendre, diagnostiquer mieux ce que les gens croient là où ils sont rendus et à cheminer là-dedans, à les exposer à la parole de Dieu. Et puis après ça, au fur et à mesure des années, bien, on apprend à s'approprier un petit peu ça puis à le modifier avec nos illustrations à nous, tout ça. Mais donc, il y a le cours théorique le dimanche matin et il y a une sortie aussi dans la semaine. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'explosif, c'est parce qu'un instructeur sort avec 2 personnes en formation, ils vont faire une visite. Généralement, ce sont des visiteurs qu'on reçoit ici le dimanche matin ou des gens de Bouffe pour tous qui demandent à mieux comprendre l'Évangile. D'autres fois, ce sont des amis. Ça pourrait arriver que ce soit des contacts à travers des portes, ce qui est très rare. Mais donc, il y a une visite dans la semaine qui vise la mise en pratique, l'assimilation de ça, puis évidemment la joie peut-être de voir quelqu'un vraiment venir à la connaissance de Jésus-Christ. Alors, ce cours-là, c'est pour la session et on vous encourage à considérer sérieusement même de faire au moins 2 sessions dans le cours afin progressivement de devenir vous-même instructeur. Certains d'entre vous vont être appelés à persévérer là-dedans. L'autre cours ensuite, c'est la formation disciple avec Michel et Joël, Michel Famille et Joël Névez qui vont l'assister. Ce cours-là vise à s'équiper à former des disciples de Jésus-Christ. Jésus nous a donné un mandat, on a une bonne idée à partir de Matthieu. OK, allez enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui, mais qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Comment il s'y prenait? Et donc, on a développé un cours où on essaie d'observer la méthode de formation de disciples de Jésus, la méthode de formation de disciples de Paul, puis comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans l'Église ici. Et donc, c'est un cours qu'on vous recommande de faire, éventuellement de le faire, puisqu'on a tous le mandat d'aller, de faire des disciples. Vous allez le récupérer à travers de la formation de disciples que vous allez entreprendre vous-même. On a peut-être maintenant 60 personnes, 55 à 60 personnes qui sont impliquées dans la formation de disciples et le coaching dans l'Église. D'accord? Et peut-être que vous allez l'impliquer là, l'intégrer là, peut-être que vous allez l'appliquer à travers votre petit groupe, mais vous allez apprendre des principes pratiques, comment former des disciples de Jésus-Christ, et les gens sont bénis de ça, je peux vous le dire. Combien de personnes sont actuellement en train de coacher ou d'être coachées dans de la formation de disciples? C'est bon. Ça vous donne une idée. Combien de personnes ont été coachées puis sont maintenant en train de coacher? Un petit peu moins. Hey, yes man. Il va y en avoir d'autres. Je pense que c'est mon cours après. Théologie systématique. Je m'excuse, je n'ai pas mes acétates. Alors, le cours que moi je vais donner ici, c'est le cours théologie systématique. Théologie systématique, c'est un survol des grandes doctrines de la Bible. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans le cours, La Bible n'est pas une encyclopédie ou un dictionnaire dans lequel il y a des entrées où vous allez trouver une définition. Alors, si vous voulez savoir tout ce que la Bible dit sur Jésus-Christ ou un résumé de qui est le Fils de Dieu, il n'y a pas d'entrée dans la Bible pour ça. Vous ne pouvez pas taper Jésus-Christ puis tchou, j'ai une définition. Alors, comment est-ce que je fais pour pouvoir résumer qui est le Fils de Dieu? C'est à travers la théologie systématique qu'on va faire ça, c'est-à-dire qu'on va, regarder toutes les Écritures puis on va essayer de faire une synthèse, un résumé. Qui est Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu selon la Bible? Qui est le Christ? Qui est l'Esprit-Saint, la pneumatologie? Qu'est-ce que c'est le péché? Et donc, on parle souvent de la Bible en disant que la Bible est une révélation progressive qui s'est faite sur plusieurs années à travers différents auteurs humains inspirés par l'Esprit-Saint qui ont abordé différents sujets. La Bible n'est pas une encyclopédie. Il faut qu'on fasse un rassemblement de ça pour pouvoir faire une synthèse, faire un résumé, puis après ça, voir comment ces doctrines-là interagissent ensemble. Ça, c'est ce qu'on va faire à travers le cours. C'est un cours un petit peu plus avancé. J'ai une vingtaine de pages de notes par doctrine, d'accord? Et ce cours-là va s'étendre jusqu'à la fin de la présente année scolaire, ça veut dire à la mi-juin. Je vais faire une pause entre les deux là, pour pouvoir inviter d'autres personnes à joindre, mais on va voir l'ensemble des doctrines essentielles ou les doctrines principales. Et puis, on a deux groupes de prières, évidemment. J'aime voir ces deux groupes de prières-là, celui des dames, celui des hommes, comme des écoles de prière. Alors, pour moi, ça s'inscrit très bien aussi dans les cours bibliques pour adultes. C'est une place pour apprendre à prier. Et il y a des personnes qui sont venues me voir, qui m'ont demandé quel cours je leur recommandais, puis je leur ai recommandé la prière. D'accord? Parce que c'est ça qu'ils ont besoin d'apprendre maintenant. C'est pas de venir se bourrer le crâne avec un peu plus de théologie. C'est peut-être pas encore d'aller faire de l'évangélisation. Peut-être que c'est la prière qu'ils ont besoin d'aller apprendre à faire. D'accord? Alors, voyez-le comme ça, pas comme l'activité que vous faites s'il n'y a aucun cours intéressant pour vous, de grâce. Vous allez parler à Dieu pendant une heure. C'est certainement pas la chose la moins intéressante à faire. C'est peut-être la plus importante. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les cours avant même qu'on se sépare? Pour les groupes. Oui, Karine. Oui, ben, ce n'est pas le cours d'évangélisation explosive. Okay? C'est vraiment un résumé de résumé de résumé. Mais effectivement, je pense que c'est le 16 février, un samedi. 19 février? Oui, c'est vrai, la date de fête de mon épouse. Le 19 février, il va y avoir une formation d'une journée. Je sais que la place dans le cours Partager sa foi est contingentée parce que ça prend des instructeurs et donc il y a des personnes déjà qui risquent d'être refusées. Hein? C'est ça, JS? Ça se peut qu'on ne puisse pas desservir tout le monde? Oui, c'est ça. Alors, une alternative, si vous n'avez pas de place dans le cours cette session-ci, ce serait d'aller le 19 février. Si vous n'avez pas le temps de vous faire le cours parce que vous ne pouvez pas dégager du temps pour la mise en pratique pendant la semaine, c'est une autre option aussi. Si vous voulez rafraîchir des notions, c'est une autre option aussi. Mais c'est vraiment une formation très, très brève. Ce n'est pas exactement la même méthode, pardon, dans le sens que c'est très résumé. D'accord? Ah, définitivement. Définitivement, c'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ. Mais ça se... Non, mais c'est juste que ça se peut que dans des conversations, comme tu t'en vas avec ça, puis là tu dis, oh, il me semble qu'il y avait quelque chose d'autre à faire ici. Puis tu vas aller plus loin avec le cours d'évangélisation explosive, mais je veux dire, il y a quatre niveaux là-dedans. Là. Fait qu'après ça, ça va être la défense de la foi, puis fait qu'on peut toujours apprendre plus. D'autres questions? C'est bon. Est-ce que les profs peuvent m'aider? Oui, excuse-moi. La salle de conférence. OK, j'arrivais à ça. Alors, moi, la théologie systématique est ici. Jean-Sébastien, est-ce que c'est là, partager la foi? La formation disciple est là. Robert, dans la jungle. Herman Chatté, je l'ai vu partir. Fait que j'imagine que c'est dans mon bureau, peut-être, dans la section des bureaux. La prière des dames se passe dans la salle de conférence et la prière des hommes doit se passer aussi dans les bureaux, je crois. Je pense. C'est ça, hein? Merci. Alors, vous pouvez vous diriger vers vos groupes. Puis la semaine prochaine, bien, on commence à 9 h pour de vrai, puis on a une heure ensemble. Pour ceux qui sont avec moi, vous avez des notes sur les deux chaises de coin, en principe, rouges. Et je vais vous demander, ceux qui restent avec moi, de vous approcher, s'il vous plaît. D'accord? J'aimerais qu'il n'y ait personne derrière les colonnes, puis idéalement que vous approchiez par ici. Alors, je vous invite à prendre des notes, si vous voulez, juste là. J'aurais besoin de quelqu'un dans le groupe qui va être responsable de faire circuler la feuille de présence. Est-ce que j'ai un bénévole qui peut faire ça pour moi? J'ai déjà une tâche pour vous ce matin. Est-ce que j'ai un bénévole ou je vais devoir désigner un volontaire qui va pouvoir faire circuler la feuille de présence pendant la session? C'est sûr que si vous prévoyez être absent une fois sur deux à cause du travail ou quelque chose, je pense que Dieu ne vous désigne pas pour la tâche ce matin. Alors, est-ce que j'ai un volontaire, quelqu'un qui veut faire circuler la feuille de présence pour moi ce matin avant que je désigne? Oui, merci Madeleine, c'est bien gentil. Si tu peux aller la chercher, c'est très important ce matin, la semaine prochaine. Des fois, ça se peut que vous oubliez de noter les présences. Là, on essaie de voir un peu l'assistance, évidemment, au cours. Mais c'est très important que cette semaine et la semaine prochaine, vous assuriez que votre adresse courriel, si vous avez des courriels, se retrouve sur cette feuille-là, d'accord? Parce qu'on va bâtir une liste d'envois et puis vous allez pouvoir recevoir à chaque semaine les notes par courriel. Tranquillement, je vais ajuster la quantité de notes imprimées sur la base des vrais besoins là, pour éviter de gaspiller du papier, évidemment. Ça va? Alors, la feuille va circuler dès que Madeleine va revenir avec. Y a-tu manqué de notes? Si vous pouvez partager le plus possible vos notes... Je pense qu'il en manque. On avait fait 40, c'est correct. Oui, il y a Yves ici qui n'a pas. Ça va? Je vais commencer le cours de la pire manière possible. Je vais vous dire tout de suite que ça va probablement être la leçon la plus plate du cours. OK? Je vais juste... Ajustez vos attentes pour celui-là, ça va être très théorique, d'accord? Parce qu'on définit c'est quoi la théologie systématique, puis pendant que je me préparais, puis que j'étudiais tout ça, je me disais, ouais, s'ils partent juste avec ça, ils vont se dire, OK, ça va être dry ici, cette session-ci. Dès la semaine prochaine, on rentre dans les doctrines, on commence avec la parole de Dieu, évidemment, d'accord? Qui a déjà fait un cours de théologie systématique ou un cours sur les grandes doctrines de la Bible? Je ne vous ferai pas parler, juste lever la main. Qui en a déjà fait? Je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont fait aussi. OK. Est-ce que j'ai un brave qui pourrait essayer de me faire un résumé? Qu'est-ce que c'est la théologie, dans un premier temps, puis qu'est-ce que c'est la théologie systématique? Je sais qu'il y a quelqu'un qui a la réponse ici, là. La théologie. Oui? Vas-y.
L'étude de Dieu.
Oui.
Puis systématique, c'est logique, dans le sens ordonné.
Oui. Oui, ça résume assez bien. Fait que Théo, évidemment, Dieu. Puis, en fait, Logos, la parole. Donc, à partir de la parole, à partir de ce qu'il a révélé, on veut connaître Dieu. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu c'est quoi la théologie systématique. En réalité, vous en avez tous fait un peu. D'accord? Lorsque vous prenez un cours comme le maître et son disciple, admettons, un cours de base sur la foi chrétienne, puis qu'on étudie c'est quoi le salut, et on commence à faire de la théologie systématique. Si vous allez au milieu de la page 3, la théologie systématique cherche à organiser tous les enseignements de la Bible de façon logique en les divisant par sujets. Ceci permet de formuler les doctrines et aide à construire une vue générale de la personne de Dieu comme il s'est révélé dans les Écritures, ainsi que de la manière dont il interagit avec sa création. La théologie systématique est en fait toute étude qui répond à la question suivante. J'ai une faute ici. Qu'est-ce que toute la Bible dit concernant tel ou tel sujet? C'est un peu comme si on essayait de faire une encyclopédie à partir de la Bible. D'accord? Une encyclopédie, c'est un livre qui résume des connaissances sur tout. Bien, une théologie systématique, c'est un peu une encyclopédie de la Bible. On n'essaie pas de résumer c'est quoi la mécanique, c'est quoi la physique. On essaie de résumer ce qui est contenu dans les Écritures, ce qui est adressé comme sujet principaux. Alors, à travers la session, mais comme j'ai mentionné tantôt, on va voir les grandes doctrines. On va parler de la parole de Dieu, on va parler des personnes de la Trinité, la notion de la Trinité même. Il y a des termes qu'on utilise en théologie, qu'on utilise dans notre langage, qui ne sont pas dans la Bible. Trinité, ce n'est pas là dans la Bible. Est-ce que vraiment la Trinité reflète une vérité biblique? Ben, c'est avec la théologie systématique qu'on va voir ça, ces choses-là. D'accord? Donc, les personnes de Dieu, l'anthropologie. Qu'est-ce que la Bible dit sur l'homme? Qui est-ce qu'on est, nous, l'être humain? La martiologie, qu'est-ce que c'est le péché? C'est quoi la doctrine du péché? Qu'est-ce que l'ensemble des Écritures enseigne sur le péché? Quand est-ce que le péché est arrivé? Comment est-ce qu'on est libéré de ça? Mais là, on va aller vers la sotériologie, la doctrine du salut. D'accord? Et donc, on va voir plusieurs des doctrines essentielles comme ça. On va essayer de toutes les couvrir, la majorité des plus importantes, c'est ça. Les noms, théologie systématique. Oh, c'est des termes techniques, là, mais sotériologie pour le salut. Puis, OK, au bas de la page 3, ça, c'est quelque chose qui est important de réaliser, OK? Dans un sens, vous avez tous une théologie systématique. Puis, plus que ça encore, dans un sens, même les non-chrétiens ont une théologie. Ils ont même une théologie systématique. Ils ont une opinion qui est juste ou fausse, qui est fondée sur les Écritures ou juste sur une opinion personnelle. Mais si vous leur demandez qui est Dieu, ils peuvent vous donner un certain résumé, qui est la personne de Dieu. Si vous leur demandez qu'est-ce qui est l'homme, puis où s'en va l'homme, ils peuvent vous résumer qu'est-ce qui est l'homme, puis où s'en va l'homme, selon eux. Alors, tout le monde a un système. On fonctionne comme ça. Dieu nous a créés intelligents, puis on organise ces choses-là dans notre tête au fur et à mesure qu'on se forme une opinion. Notre objectif avec la théologie systématique, c'est d'aller confronter notre vision de Dieu et notre vision de nous-mêmes et du monde à la parole de Dieu et de comprendre ce que l'ensemble des Écritures dit sur différents sujets. C'est ça notre objectif. Alors, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez être appelé à confronter votre vision à vous avec celle de la parole de Dieu. Vous allez être appelé aussi, évidemment, à examiner si ce qu'on vous enseigne, c'est conforme à la parole de Dieu. Mais dernièrement, je parlais avec un jeune homme qui est en train de faire de la traduction pour nous. Et puis, il traduisait du matériel pour l'école du dimanche. Puis, en traduisant le matériel, il est tombé sur la doctrine de l'élection, complètement renversée. Puis un jeune homme qui aime le Seigneur, qui aime la parole de Dieu. Donc, c'est pas qu'il veut se battre avec Dieu ou qu'il veut argumenter avec Dieu, mais bouleversé par la doctrine de l'élection, qui croit vraiment dans la prédestination, tout ça. Fait qu'il m'arrive à la porte un dimanche matin, puis là, il dit, Yannick, là, faut-tu m'aider? Là, il dit, j'ai traduit du matériel, là, puis je suis complètement à l'envers. Là. Il n'arrivait pas à concevoir Dieu comme ça. Sa vision de Dieu, sa vision du salut, sa compréhension de l'appel de Dieu sur nos âmes a été confrontée par la parole de Dieu. D'accord? Puis là, on lui a donné du matériel, il est en train de lire, il est en train de regarder les textes bibliques, puis oh, OK, ouais, c'est en train de tomber en place. Il dit, OK, c'est vrai, c'est ça que la parole de Dieu enseigne. D'accord? Donc, vous avez déjà une théologie. Vous en avez déjà une. Votre théologie va être confrontée avec la parole de Dieu. OK. Ici, je vais venir un petit peu plus technique, à la page 4. Ce que la théologie systématique n'est pas. OK? La nuance la plus importante, c'est la différence entre la théologie systématique et la théologie biblique. La théologie systématique, c'est biblique, mais ce n'est pas de la théologie biblique. Vous me suivez? Non, hein? La théologie systématique est biblique dans le sens qu'on veut respecter ce que la Bible enseigne. Mais il y a des disciplines différentes en théologie. On parle de théologie systématique, on parle de théologie biblique, on parle de théologie historique. Donc, il y a différentes approches qui ont différents objectifs, qui ne sont pas en opposition les uns avec les autres. Laissez-moi définir un petit peu c'est quoi la théologie biblique, puis ça va clarifier qu'est-ce que c'est la théologie systématique. La théologie biblique cherche à étudier, par exemple, livre par livre, ce qu'un auteur dans un livre est en train de dire sur un sujet. Par exemple, une question, je le mentionne dedans, une question que la théologie biblique pourrait poser, c'est qu'est-ce que Ésaïe enseigne sur la prière? Puis une fois qu'on a commencé à voir des pistes, après ça, on pourrait dire, OK, voici ce que Ésaïe enseigne sur la prière. Maintenant, qu'est-ce que Ésaïe comprenait de la prière? Parce que Ésaïe a été écrit, puis Ésaïe a vécu avant que Jésus vienne. Et donc, il y a des choses qu'Ésaïe pouvait comprendre sur la prière qu'il n'aurait pas pu comprendre de la même manière une fois que Jésus est venu. Dans le cours « Connaître Dieu », ceux qui étaient avec moi, dans le dernier chapitre qu'on a vu ensemble en parlant de l'adoption, il y avait une belle citation qui disait « Le nom chrétien de Dieu, c'est Père. » Le nom N-O-M, chrétien de Dieu, c'est Père. Personne n'a défini toute l'idée d'adoption puis de la paternité de Dieu envers nous, le fait qu'on est adopté comme Jésus-Christ. Et ça, c'est venu affecter ce que Jésus nous enseignait sur la prière. C'est quoi la prière que Jésus nous enseignait? Ça commence comment? Notre Père qui est aux cieux. Puis lorsque tu découvres toute la notion d'adoption en Jésus-Christ, quand tu comprends ça comme il faut, ça vient changer ta vision de la prière. Ésaïe n'avait pas toutes ces informations-là. D'accord? Alors, la théologie biblique va te permettre d'étudier dans un livre, sous un auteur, pour commencer, qu'est-ce que l'auteur pense et comprend de tel ou tel sujet. On va aussi prendre un livre, par exemple, la Genèse, puis on va dire, OK, c'est quoi le sujet le plus important de la Genèse? C'est ça. Ça veut dire qu'après, lorsque je vais aller sortir quelque chose de la Genèse, il faut que je m'assure que c'est conforme avec le sujet principal du livre. Ça, c'est toute la discipline de la théologie biblique. Une fois qu'on a fait une bonne théologie biblique, après ça, on peut faire une bonne théologie systématique. Maintenant, là, je parle lorsqu'on passe notre temps à étudier la parole de Dieu, puis on veut écrire là-dessus. D'accord? Donc, la théologie systématique est différente dans le sens que la théologie systématique, elle va tirer des conclusions sur l'ensemble des Écritures, puis on va essayer plutôt de répondre pas qu'est-ce que Ésaïe enseignait sur la prière ou croyait sur la prière, mais qu'est-ce que la Bible dit sur la prière. D'accord? Alors ça va être une différence. La théologie historique. La théologie historique, c'est qu'est-ce que l'Église a cru sur la prière à travers les différents moments de l'histoire. Par exemple, comment est-ce que Augustin comprenait la prière? Comment est-ce que les réformateurs comprenaient la prière? Comment est-ce que les moines retirés dans sur leurs piliers dans le désert comprenaient la prière? Comment est-ce que les protestants comprennent la prière? Comment est-ce que les évangéliques comprennent la prière? Une vision très, très naïve de ces sujets-là nous amènerait à dire « Oui, mais c'est pas utile de savoir qu'est-ce qu'Augustin croyait sur la prière. » Nous, on est des baptistes. Puis des baptistes, ça lit la Bible. Fait qu'on a juste besoin de la Bible. On pourrait le voir comme ça, non? Je prends la Bible, puis tu sais, je veux dire, moi, je suis un chrétien, ça lit la Bible, puis ça étudie un sujet, puis j'ai pas besoin de savoir ce qu'Augustin enseignait sur la prière. Je vais aller voir ce qui est écrit dans la Bible. Parce que je veux me mettre... des hommes. Fait que je vais aller juste moi avec les Écritures. C'est quoi le danger de ça? Ou qu'est-ce que je suis en train d'illustrer si je fais ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ça? Oui, chérie.
J'ai juste moi pour interpréter ce que je comprends.
Oui. Ça veut dire que le seul commentateur juste, c'est moi. Admettons que Charles il décide que lui, il n'a pas besoin de savoir ce que les autres enseignent sur la Bible, mais il dit, moi, je vais prendre la Bible et je vais étudier tel ou tel sujet. Je vais être seul avec mon livre. Dans le fond, Charles est en train de dire, s'il faisait ça, il est beaucoup trop humble pour faire ça, mais Charles serait en train de dire, je pense que le meilleur commentateur qui a existé dans l'histoire de l'humanité, puis le meilleur chrétien pour comprendre la Bible, c'est Charles. Fait que Charles, avec sa Bible, va s'en sortir tout seul. Il n'a pas besoin de voir comment un autre être humain comprendrait les mêmes passages. Voyez-vous? Oui, Karine.
Allô? Augustin et les pères de l'Église ont passé énormément de temps à étudier et à s'obstiner, puis beaucoup plus que nous aujourd'hui, qui a plein de loisirs, il y a plein de trucs. Eux, ils faisaient juste ça.
Oui, et donc ils peuvent avoir une expertise. Mais un autre avantage aussi de la théologie historique, c'est que à chaque fois qu'on vit dans une époque, dans un temps, on a des angles morts. Il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on ne voit plus. Alors, par exemple, essayer de comprendre la vision du devoir chrétien à notre époque, ça va être différent d'aller voir des étudiants de la Bible il y a 100 ans. Comment est-ce qu'eux autres voyaient le devoir chrétien? Vous avez juste à penser, est-ce que nos arrière-grands-parents avaient un plus grand sens du devoir que nous, selon vous? Je suis en train d'écouter la série Band of Brothers, Frères d'armes. Puis il y a un témoignage à chaque début d'émission par des anciens combattants. Puis c'est surprenant à quel point combien d'entre eux étaient volontaires, puis faisaient juste dire, on est allé faire notre devoir. Bien, si je veux essayer de comprendre à mon époque de loisirs, d'individualisme, on est centré sur soi, où il y a peut-être moins de rigueur aussi dans certains domaines, si je veux essayer de comprendre qu'est-ce que certains passages disent, puis je veux être sûr que je les comprends bien, ça va être utile d'aller voir qu'est-ce que des chrétiens qui ont lu ça il y a 200 ans comprenaient en lisant ces passages-là. D'accord? Alors là, la théologie historique devient intéressante parce que je me dis, est-ce que ça se pourrait qu'à mon époque, il y a des angles morts, il y a des morceaux que je ne vois plus? C'est définitivement le cas parce que nous, on voit leurs angles morts. Lorsqu'on va lire ce que saint Augustin a écrit sur certains sujets, par exemple, on se dit, il y avait des angles morts, ce monsieur-là. Il y avait des morceaux qui lui manquaient. D'accord? Mais c'est donc un acte d'humilité que je suis en train de faire. Je suis en train de dire, c'est peut-être sage que je ne sois pas le seul à interpréter les Écritures et à me fier juste sur moi-même. D'accord? Fait que ça va être la théologie historique, par exemple. Juste pour les mettre en contraste les uns avec les autres. Est-ce que c'est clair pour vous ou ça ne reste pas clair? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter un commentaire qui clarifierait d'après vous? Lorsqu'on avait fait théologie systématique avec Stéphane, Michel, Maxime, on avait passé, je pense, 2-3 soirées à démêler ces morceaux-là. Hein. Ça avait été. Puis au début, c'est comme les premières fois, tu dis, là, c'est parce qu'on essaie de couper les cheveux en quatre. Là. Non. Quand tu commences à saisir ça, tu vois qu'il y a vraiment des nuances importantes. Au bas de la page 4. Alors, quels sont les avantages? Ça devient un petit peu plus pratique. Quels sont les avantages d'étudier la théologie systématique? D'après vous, juste avant de les lire, quels sont les avantages d'étudier la théologie systématique? Juste à main levée, je ne me déplacerai pas. C'est quoi les avantages d'étudier la théologie systématique, Stéphane? OK. C'est un avantage important. C'est d'avoir la vue d'ensemble. Si je suis en train de lire un texte biblique, moi, j'étais dans Matthieu ce matin, j'étais en train de lire Matthieu 9. Bien, je vais rencontrer certains sujets, puis si je m'arrête juste à Matthieu 9, par exemple, vous allez voir tout à l'heure dans la prédication, je vais citer Matthieu 6. Si vous prenez juste Matthieu 6, puis vous essayez de comprendre ce que Jésus pense des finances, c'est radical, Titi. D'accord? Puis vous rencontrez Jésus avec le jeune homme riche, puis vous essayez de comprendre ce que la Bible enseigne sur les finances. On devient tous des moines, là. D'accord? Alors, la théologie systématique va me permettre d'étudier, admettons, le sujet de l'argent à travers toute la Bible. Puis d'essayer de comprendre. OK, dans l'Ancien Testament, c'était ça. Le Nouveau Testament, c'est ça. C'est quoi la pensée cohérente de Dieu dans tout ça? D'autres avantages d'étudier la théologie systématique ou la théologie tout court. D'accord? Je vais l'ouvrir comme ça. Ça va, on va aller avec les notes. Évidemment, le point 1, elle nous aide à voir ce que la Bible enseigne sur un sujet donné. D'accord? Le point 2, elle nous permet de voir la relation entre les différents sujets. Parce que ça, c'est une des beautés de la théologie systématique. La Bible, c'est vaste. Hein? La Bible, c'est très, très vaste. Il y a des milliers de sujets là-dedans. Lorsque je fais une théologie systématique, j'essaie d'identifier c'est quoi les sujets principaux dans la Bible. Puis après ça, je vais avoir le loisir de les mettre en relation les uns avec les autres. Voici comment on comprend qui est Dieu. Voici comment on comprend qui est l'homme. Mais maintenant que j'ai défini, j'essaie de résumer qui est Dieu, je vais essayer de comprendre qui est l'homme par rapport à Dieu. Et donc, ça me permet de les mettre en relation les uns avec les autres. Lorsqu'on adresse la question de l'homme, lorsqu'on adresse la question du salut, c'est important de les mettre les deux en relation les uns avec les autres. Puis qu'est-ce qui arrive avec les non-sauvés? Oups! Là, on va les placer en relation ensemble. Vous allez voir à travers les deux sessions que si vous lisez régulièrement la Bible, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on va voir. Vous allez juste dire, ben oui, c'est évident. Alors, l'avantage que vous allez tirer de cet exercice-là, c'est que vous allez valider, vérifier certaines pensées, certaines visions que vous avez. Mais deuxièmement, vous allez pouvoir mieux résumer ce que vous croyez. Parce qu'il y a des choses qu'on croit, mais on n'arrive pas à les résumer par nous-mêmes. On les rencontre dans les Écritures à travers la lecture, mais on ne saurait pas les résumer. Et donc ça va vous donner des mots, ça va vous donner des définitions, ça va vous donner des pistes. Et donc, si vous lisez régulièrement la Bible, quotidiennement, vous avez tranquillement, probablement, une bonne théologie biblique qui est en train de se former. Ce qui fait que des gens qui vont lire les Écritures tous les jours pendant 20 ans, qui assistent à l'Église où il y a un bon enseignement, ils ont généralement une bonne théologie biblique. Puis tu croises ces gens-là, ils sont d'une autre assemblée, tu les crois, ils sont dans une autre dénomination, tu les crois, tu jases avec. Oh boy, on a pas mal de points en commun. Leur théologie biblique s'est développée à travers les années. Ici, ce qu'on va faire, ça va permettre de mettre des mots, de résumer des choses. Ouais, non, mais OK, c'est une bonne question. Stéphane, il dit, je suis en train de confondre théologie biblique, théologie systématique. Oui. Oui, c'est ça. Mais ça s'est fait à travers... Ce que je veux dire, c'est que ça s'est fait à travers votre théologie biblique, puis vous avez résumé tranquillement ces morceaux-là. Vous avez fait votre théologie systématique. C'est mieux dit comme ça. Merci. Bien, évidemment, l'avantage de faire une théologie systématique, c'est qu'on est confronté au fait que notre connaissance véritable de Dieu est limitée à sa révélation, à sa parole. Et donc, lorsque j'en viens, par exemple, à résumer ce que Dieu enseigne sur le péché, je suis obligé de faire du ménage dans les affaires que j'aimerais mieux croire sur le péché, mais qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Fait qu'il y a des moments où vous allez réagir et puis vous allez dire, non, mais ça ne fait pas mon affaire. OK, ça ne fait pas ton affaire. Est-ce que c'est ça que la Bible enseigne? Parce que ça, c'est la révélation, c'est la parole de Dieu. Et donc, on est confronté avec le fait que c'est Dieu qui se révèle à nous, c'est lui qui se fait connaître à nous, et on va confronter les choses qu'on pense. Nous voyons l'harmonie et la cohérence des doctrines qui nous révèlent l'unité des Écritures. Alors, une des choses qui est géniale avec une théologie systématique, c'est que quand tu termines cet exercice-là, puis que quelqu'un arrive à toi, puis il dit, « Ouais, mais là, ça a été écrit par plein de monde, par plein d'hommes, à travers tous les âges. » La première réponse qui te vient, c'est « Oui, oui, mais ça a été inspiré par un Dieu, ça, je peux te le dire. » Parce que laisse-moi t'expliquer ce que ce Dieu-là, à travers tous ces auteurs-là, nous a dit sur le péché, par exemple, ou sur l'homme, ou sur Dieu, ou sur le salut, ou sur l'Église. J'étais en train de parler dernièrement avec un ami, puis comme je lui dis des fois, je dis, « Toi, tu es un demi-chrétien. » En réalité, il est loin, loin, loin d'être un chrétien. Mais il est attiré, il lit un peu les Écritures, mais il passe son temps à prendre ce qu'il veut puis à rejeter ce qu'il n'aime pas, tout ça. Puis l'Ancien Testament, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Il lisait le psaume 148, puis il dit, Yannick, c'est abominable ce qu'il y a là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. Dit, c'est comme c'est les boys. Tu sais, il cause. Psaume 148, vous irez le lire. Fait que... Puis à un moment donné, j'ai commencé à y dire, je voulais l'aider en lui donnant une théologie du peuple de Dieu. Ah, oh, mais il faut que tu comprennes comment Dieu est en relation avec son peuple dans l'Ancien Testament, quel est le rôle d'Israël dans l'Ancien Testament, quel est le rôle de l'Église dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui change ici? Puis là, je m'écoutais parler, puis je disais, oh, OK, on est en train de faire de la théologie, là. Et donc, c'est ça. Je lui ai refilé For the Love of God de Don Carson, puis j'ai dit... Lis ça en lisant ta Bible, ça va comme tranquillement bâtir une théologie plus cohérente. Donc, on voit la cohérence et l'harmonie des doctrines à travers l'ensemble des Écritures. Ça renforcit notre foi en Christ, notre foi en Dieu. Ça nous rassure par rapport à la parole de Dieu. Et puis, évidemment, mais c'est ça. On a un outil, le point 5, qui nous aide à transformer notre vision séculière du monde. On a notre vision à nous, qu'on a hérité de nos parents, qu'on a hérité du monde, qui est constamment nourri par plein de choses. Je suis en train de lire là, actuellement, si vous regardez au milieu du paragraphe, le docteur Muller a pris un sujet, la beauté, et a résumé l'enseignement des Écritures à ce sujet de telle façon qu'il a défié notre vision à nous mondaine souvent et l'a appliqué à nos vies d'une façon distinctement chrétienne. On peut faire une théologie, on pourrait faire la doctrine de la beauté selon la Bible. D'accord? Est-ce que ça, ce n'est pas un sujet qui est omniprésent dans notre société? Mais lorsque tu t'en vas étudier les Écritures, puis tu définis c'est quoi la beauté à la lumière des Écritures, ça vient bouleverser complètement ta vision de la beauté. Muller commence en disant, bien, la majorité de ce qu'on appelle beau, Dieu l'appelle laid. Puis la majorité de ce qu'on appelle beau... En réalité, c'est ce qui est séduisant. Ce n'est pas nécessairement beau, ça peut être absolument affreux, mais c'est séduisant. Nous, on définit ça comme la beauté dans le monde, en général. Mais je veux dire, dans le monde, on est tellement pas imperméable à ce que le monde enseigne. Alors, par exemple, on pourrait faire ça. On pourrait faire une doctrine de la beauté. C'est fascinant. Et ça motive ton désir de sainteté. C'est vraiment stimulant. Mais ça te permet justement d'aller comme faire du ménage dans ta vision, dans notre philosophie souvent qui va être mondaine parce qu'on l'a reçu du monde. C'est quoi les dangers à étudier la théologie systématique? OK. C'est important de réaliser que il n'y a aucune théologie qui peut prendre la place de la parole de Dieu. Et donc, tout ce qu'on va résumer ici, ce n'est pas autoritaire. Ce qui est autoritaire, c'est la parole de Dieu. Au mieux, on respecte les Écritures puis on fait un bon résumé pour notre époque de telle ou telle doctrine. Au mieux. Mais ce n'est jamais la parole de Dieu. Et donc, il y a des pièges qui sont liés à ça, de voir des idées qu'on a puis de les prendre comme étant autoritaires. Puis ça va même affecter notre manière de lire la Bible. Parce que j'ai un système. Mon système, ma compréhension devient plus importante. Une des illustrations les plus simples de ça, ça va être, par exemple, la vision que l'Église catholique a du peuple de Dieu. La vision que l'Église catholique a, par exemple, du salut vient affecter toute sa lecture de l'Ancien Testament. Et donc, l'Église catholique essaie de reproduire le culte de l'Ancien Testament. Dans nos milieux, ton système, ta vision de la doctrine de la fin des temps, ton eschatologie, je dirais, c'est celle qui est la plus frappante pour nous, où tu peux arriver avec un système qui est tellement comme complet, puis là, tu sais, OK, quand est-ce que le Seigneur revient? Je n'ai pas de date, là, mais ça va se passer comme ça, puis qui, Israël et où, tout ça. Puis là, je m'en vais vers les Écritures, puis je lis les Écritures avec mon système. Mais mon système, c'est un effort humain pour résumer une lettre divine. Ce n'est pas autoritaire. Il faut que je sois prêt à tout moment à ce qu'en lisant les Écritures, Dieu vienne faire éclater mon système. D'accord? Il peut remettre en question. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris, là. Donc ça, c'est un des pièges, c'est de voir, de voir mon système comme étant autoritaire, alors qu'il ne l'est pas. Évidemment, un autre danger, il vient résumer au point 1, il y a un danger de prendre et de comprendre les idées hors de leur contexte. Vous avez déjà entendu l'expression « un texte sans contexte devient un prétexte ». D'accord? Alors, je peux bâtir une doctrine, puis prendre des versets, puis les amener à moi. C'est là que la théologie biblique devient importante. Je retourne dans le contexte, puis je dis, non, je pense que ce n'est pas ça que le texte dit. Alors, je n'ai pas d'affaire à faire ça avec le texte. Je ne suis pas en train d'honorer la parole de Dieu. Là. On va dans les subtilités un peu, là, mais pour ceux qui vont le suivre, je pense que c'est intéressant. Le point 2, il est aussi possible que le système dans la théologie systématique en vienne à déformer la vérité biblique. Don Carson a fait remarquer que le simple fait de choisir des sujets, de les hiérarchiser, c'est déjà imposer une structure qui n'est pas explicite dans les Écritures elles-mêmes. Qu'est-ce qui dit que le troisième sujet en importance, ça devrait être le salut? C'est pas dit. Alors, par exemple, si je suis en train d'étudier la parole de Dieu, puis je décide d'étudier la paternité divine de la parole de Dieu, c'est Dieu qui a inspiré la parole. Puis que je commence à étudier ça, je vais tirer une conclusion. Mais il va falloir après ça que j'aille voir la paternité humaine des Écritures. C'est des hommes qui ont écrit. Donc, il y a des hommes impliqués là-dedans. Et donc, lorsqu'on est en train de choisir des sujets, l'ordre dans lequel on va les étudier, il y a déjà des choses qui vont venir s'influencer, qui vont venir influencer nos conclusions. Je vous ai dit, on va étudier les doctrines essentielles. Est-ce qu'il y a une table des matières après Genèse 1 qui nous dit c'est quoi les doctrines essentielles? Avez-vous un verset qui peut nous dire c'est quoi les doctrines essentielles qu'on doit étudier? Moi, j'en ai pas. Puis qu'est-ce qui vous dit que je vais choisir les bonnes doctrines essentielles? Bon, on se repose un petit peu sur la théologie historique. À travers l'histoire, tous les chrétiens qui ont étudié la Bible ont dit voici les sujets qui ressortent le plus de la Bible, qui sont les plus importants, qui définissent tous les autres sujets. Puis c'est ceux-là qu'on devrait étudier en premier. Mais vous comprenez, c'est notre conclusion. Là. On ne prétend pas que ça, c'est inspiré de Dieu. Tout ce qui est inspiré de Dieu, c'est la Bible. Alors, évidemment, la mise en garde du bas de la page 5, tiens, vous n'êtes pas ici pour arrêter de faire votre culte personnel. Vous n'êtes pas ici pour ne pas vérifier les passages qu'on vous donne. Au contraire, vous êtes ici pour regarder si ce qu'on enseigne est conforme à la parole de Dieu. Et si, à travers les cours, j'enseigne des choses, puis vous dites, « Il me semble que ce n'est pas ça que la Bible enseigne. » Vous êtes bienvenus. Vous êtes invités à venir, d'accord? On ne pense pas que celui qui est en avant a une inspiration particulière. Et donc, c'est important, au fur et à mesure qu'on va avancer, que vous ayez cette belle habitude d'aller examiner les Écritures, de prendre le temps de vérifier ce qu'on enseigne pour voir si c'est conforme avec la parole de Dieu. Et on va terminer avec les pages 6, 7 et 8. Vite. Pourquoi étudier la théologie? Premièrement, pour la gloire de Dieu. Ultimement, on veut connaître Dieu. C'est une lettre qui nous a écrite. Ce n'est pas une lettre de 3 pages. C'est une lettre de milliers de pages. C'est une lettre qui est importante. Alors, on veut l'étudier. On veut connaître Dieu personnellement. 1 Jean 2, 3 nous dit, « Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. » Quel commandement? Qu'est-ce qu'il a enseigné? Il nous a dit d'enseigner, d'aller faire des disciples, leur enseigner tout ce que Jésus a enseigné. Oui, mais Jésus a dit aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que vous vous rappelez ce que Jésus a dit aux disciples sur le chemin d'Emmaüs concernant la parole de Dieu? Non? Il dit que toute la parole de Dieu parlait de lui. OK. Alors, on veut comprendre, on veut connaître ce que Jésus a enseigné, ce qu'il disait, ce qu'il déclarait. On veut le saisir qui il est. On veut être un reflet tangible de Christ auprès des hommes qui nous entourent. Tantôt, j'ai donné une illustration avec la beauté. Nous voulons présenter aux hommes qui nous entourent ce que Dieu enseigne. Mais il va falloir pour ça que je vois la beauté comme Dieu la voit, pas comme mes contemporains la voient, pas comme je la vois moi-même. Quand tu vois la beauté, quand tu confonds dans ta définition de la beauté tout ce qui est séduisant, par exemple, ben, je m'excuse d'être un peu grossier, mais pour un homme, si tu vois une femme nue, je suis désolé, mais c'est très, très beau. Non, Dieu dit, si ce n'est pas ta femme et tu n'as pas fait une alliance avec elle, c'est absolument affreux. C'est laid, c'est dégoûtant. Non, moi, je trouve ça beau. Non, tu trouves ça séduisant. C'est pas beau. C'est absolument horrible que cette femme-là ose s'exposer comme ça à tes yeux. Et donc, si je veux aller refléter la parole de Dieu, si je veux aller refléter la pensée de Dieu à mes contemporains, il faut que je saisisse ces choses-là. Oui, Diane. Non. OK, la question de Diane, tu veux dire parce que c'est beaucoup de sujets importants, c'est ça que tu veux dire? Non. OK, la question de Diane, c'est si on n'a pas une théologie systématique, dans le fond, là, est-ce que ça veut dire qu'on interprète mal toutes les Écritures, tout ça? Non, parce que comme je vous l'ai dit, si vous lisez la Bible chez vous, c'est une lettre que Dieu a écrite. Dieu n'a pas écrit un code encrypté, là. On s'entend, ce n'est pas le Da Vinci Code, nous autres, qu'on croit. Dieu a écrit des lettres, puis il y avait des auteurs, puis ces auteurs-là avaient une pensée logique, puis ils ont écrit une lettre. Donc, les lettres sont cohérentes, puis si je lis la lettre, bien, je vais voir où ils s'en vont avec ça. Il y a des textes qui sont plus durs. L'Apocalypse, c'est une lettre assez obscure, c'est vrai. Mais donc, si je lis la Bible régulièrement, il y a plein de sujets qui se placent dans ma tête. Mais il reste souvent des petits morceaux du puzzle qui ne sont pas en place. Des fois, il va peut-être avoir quelques grosses pièces là, qui ne sont pas encore tombées en place. Puis là, quand on arrive là-dedans, on arrive avec une pièce de puzzle, une doctrine, puis on la met pouf, sur la table. Ça vient comme de toute défense que je comprenais. Attends un peu, on va voir comment ça s'agence, ça. Là. D'accord? Alors, quelqu'un qui lit régulièrement les Écritures, quelqu'un qui vient pour s'instruire, Dieu a donné, je l'ai mentionné cet automne, Dieu a donné à l'Église des pasteurs, docteurs qui sont là pour enseigner. Donc, tu te joins à une assemblée, tu apprends au fur et à mesure des années, tu lis les Écritures, il y a plein de choses qui sont déjà en place. Il reste souvent à les agencer ensemble. Il reste des fois à répondre à des questions, disons, plus obscures. Oui. Mais tu as une bonne vue d'ensemble. Tu as une bonne vue d'ensemble. Il manque des morceaux. Puis on n'a jamais fini d'étudier. Oui, Stéphane. D'ailleurs, pour donner un exemple de ça, puis on en fait tout le temps, là. On fait toujours cet exercice-là. Ceux qui suivent actuellement le cours avec Herman Chatté font une théologie biblique sur Jésus dans l'Évangile de Marc. Donc, lorsqu'ils vont terminer, ils vont déjà être capables de résumer certaines idées par rapport à Jésus. D'accord? Ils sont déjà en train de bâtir même leur théologie systématique, parce qu'après, lorsqu'ils vont aller lire l'Évangile de Jean, ils vont dire, OK, Marc a dit ça sur Jésus, maintenant, Jean, il apporte telle ou telle nuance. Puis là, ils vont confronter un petit peu les deux, puis ah, ça va ajuster. Oh, il est encore plus glorieux que je pensais, là. Je viens de lire Jean, là, tu sais. Hop, je m'en vais dans Matthieu, j'ajoute. Donc, je suis en train de développer ma théologie. Ça va? Oui, allez-y. Oui. C'est une bonne question. C'est un petit peu mystérieux pour moi dans le sens que je pense que dans ces textes prophétiques-là, il est autant question de ce qui est commencé maintenant que de ce qui va être accompli lorsque le Seigneur va revenir. Et donc, il y a une partie de ça qu'on voit déjà. Ce qui fait, comme je vous dis, vous lisez des Écritures. Vous avez l'Esprit-Saint, vous lisez des Écritures pendant 20 ans. Moi, je m'assois avec des personnes qui n'ont jamais fait aucun cours de théologie, mais c'est des amoureux de la parole de Dieu. Je pourrais vous donner des noms, là, mais je ne veux pas que personne s'enorgueillisse de ça. Mais je m'assois avec eux, là, puis on a des discussions comme si j'étais dans un cours au séminaire. Là. D'accord? Parce qu'ils mangent la parole, puis ils ont l'Esprit. Fait qu'on a des discussions tellement intéressantes, puis là, ils viennent avec d'autres textes, puis tout ça. Donc, je vois que ça, c'est déjà accompli partiellement. Je pense que ça va s'accomplir entièrement lorsqu'on va être dans la présence de Dieu. Mais est-ce que la majorité des chrétiens vont puiser les ressources qu'il y a là pour aller plonger leur regard dans la parole? Ça, c'est une autre question. Donc, il y a ce qu'on devrait être, puis comme l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, ce qu'on n'est peut-être pas tout à fait, parce qu'on devrait tous être des maîtres après Exoner. On devrait avoir ces connaissances-là. Je vais vous demander de terminer la lecture des notes, d'accord? Vous n'avez pas long, là, vous avez deux pages à lire. Si vous n'avez pas reçu... Si vous n'aviez pas de copie du document ici, c'est très important que vous mettiez votre adresse courriel sur la feuille. Où est-ce qu'est rendue la feuille qui circule pour les présences? Qui a la feuille de présence? Oui, je vous demande de marquer votre nom, de marquer votre adresse courriel. Vous allez recevoir les notes. Les notes vont se retrouver aussi sur le site Internet. D'accord? Alors, dans la section des cours, vous pouvez aller chercher ça. Là, pour cette semaine, c'est celle-là. Mais généralement, moi, je vais vous envoyer les notes le vendredi. Et donc, le vendredi, au fur et à mesure là, des semaines, je vais ajuster le nombre de copies à imprimer pour éviter de gaspiller du papier pour rien. Puis, vous pouvez les archiver, même les... Ça, il n'y a pas de droit à protéger là-dessus. Okay? C'est du matériel, comme je le mentionne au début, qu'on a emprunté à l'église Capitol Hill, puis que j'adapte moi-même. Donc, c'est déjà plus comme leurs notes à eux. Ce n'est pas mes notes à moi non plus. Mettez-les dans un fichier Word, annotez-les, mettez vos notes à vous, faites ce que vous voulez avec. Pour développer tranquillement votre propre théologie. On va terminer avec un mot de prière. Père éternel, tu es grand. Tu es grand et lorsqu'on aborde un sujet comme celui-là, lorsqu'on veut développer une théologie, on peut dire, Seigneur, qu'on s'attaque à un grand projet. Et lorsqu'on aura une bonne théologie, Père, on demeurera humble en reconnaissant que nous ne saisissons pas vraiment encore qui tu es, Seigneur. Parce que tu es tellement, tellement plus grand et cette révélation que tu nous as donnée nous révèle ce qui est nécessaire pour nous, Seigneur, de savoir sur toi, mais ne saurait contenir qui tu es tant tu es grand. Encore une fois, Père, je veux te demander de nous donner une attitude humble, une attitude pieuse à travers toute cette démarche. Aide-nous, Seigneur, à ne pas prendre à la légère ces sujets. Ce sont des sujets qui vont ravir notre âme pour l'éternité. Ce sont des sujets qui sont salutaires pour notre âme. Ce sont des sujets qui nous aident à grandir. Viens par ton esprit nous convaincre de l'importance et de la beauté de ces choses, Seigneur. Père, viens nous garder dans ta parole avant d'être dans la théologie systématique. Viens nous garder dans la prière avant d'être dans le cérébral, Seigneur. Je prie, Père, de bénir cette démarche et de nous faire grandir en Jésus-Christ.